Alors, je vais te parler de mes études à l'université en sport. Donc, en fait, j'ai commencé l'université en 2005 et il s'avérait que c'était l'année de transition, donc c'était l'année qui de passage entre le système licence au système bachelor-master. Donc, on m'avait présenté les études à l'université en sport d'une manière, parce qu'en fait j'ai mon copain qui est aussi. Et il s'avérait que c'était une année où la plupart des cours ont changé. Donc on a eu beaucoup plus de cours que ce que les étudiants précédents avaient eu. On a eu des cours, disons, plus difficiles aussi. Et puis il faut savoir que la première année en sport est une année propédeutique, donc on est obligé en fait de la réussir pour pouvoir passer à la deuxième année. Donc, il y avait comme cours l'anatomie, physiologie, qui sont des cours annuels, qui demandent beaucoup de travail à la fin de l'année. Il y avait également des pratiques, beaucoup de pratiques. Donc, normalement, on n'a pas le droit d'avoir plus de 3 pratiques par semestre. Et là, on s'est retrouvé avec 5 pratiques par semestre. Donc, il y a eu beaucoup de blessés. Donc, il y a eu des pratiques telles que natation, sport plein air. Éducation du mouvement, enfin voilà. Puis pour exemple, jeudi, j'avais natation de 11h à 12h30, de 1h à 3h, j'avais beach volley, j'avais encore 2 heures de roller après. Donc c'était pas du tout bien prévu. Donc ça, c'est un des exemples du fonctionnement de l'université en sport. Sinon, il faut savoir que c'était une année où j'avais que des cours de sport, donc j'ai pas encore eu besoin de choisir une mineure. La mineure, par contre, pour les étudiants qui sont maintenant, qui commencent pour la première année le sport, ils ont la mineure plus la majeure. Donc la mineure, c'est la deuxième branche. Donc en tant que futur prof de sport, on est obligé de choisir une deuxième branche enseignable. Donc cette branche, ça peut être histoire, français, anglais, allemand, psycho. En fait, on a droit aussi de choisir, c'est pas vrai, des branches non enseignables, donc sciences sociales. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Donc, moi, j'ai commencé ma deuxième branche qu'en deuxième année. Donc, en deuxième année, il s'avérait que j'avais beaucoup moins de cours de sport parce que j'ai fait presque une année de sport complet en première. Et puis après, bah, j'ai commencé l'histoire comme mineur. Donc actuellement l'histoire me prend beaucoup plus de temps que le sport. Donc c'est-à-dire qu'en histoire j'ai beaucoup de séminaires à faire, donc de travaux à rendre, et puis en sport très peu. Donc l'impression que j'ai c'est que finalement ma mineure me prend beaucoup de temps par rapport à ma majeure, et puis c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup d'étudiants. Donc en fait c'est vrai que toute la deuxième année j'ai eu l'impression de presque pas suivre de cours en sport, à défaut de faire que de l'histoire. Donc, au niveau des cours en sport, il faut savoir qu'il y a des cours intéressants et d'autres moins, comme dans beaucoup de branches. Alors, d'après moi, les cours les plus intéressants sont les cours qui touchent directement au sport en lui-même. Donc, je dirais les cours un peu la théorie de la pratique. Donc, théorie de l'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, anatomie, physiologie, psychophysiologie, un cours très intéressant mais un peu compliqué à mon sens pour des futurs enseignants en sport. Par contre, il y a des cours beaucoup moins intéressants tels que psychologie du sport ou introduction à la psychologie du sport. Alors, bon, déjà, il faut savoir qu'en première année, on a eu introduction à la psychologie du sport et actuellement, je suis en train de faire psychologie du sport et l'éducation physique. Donc, je ne sais pour quelle raison, mais ils ont su, en guillemets, dédoubler des cours. Donc, je pense qu'ils avaient de la peine à nous trouver des crédits. Donc, ils ont choisi de nous faire faire 2 fois le même cours. Donc c'est le cas, c'est exactement le même cours donné par une enseignante différente, mais les thèmes sont exactement les mêmes. Puis finalement, un cours de psychologie du sport est intéressant, mais deux, la répétition m'intéresse peu. Donc en sociologie également, on a eu sciences sociales en première année, donc donné par un enseignant. Et en deuxième année, j'ai également sociologie du sport qui est donnée par le même enseignant et que c'est le même cours. Même forme d'examen. Donc, Là, c'est deux exemples, mais je crois que c'est à peu près les seuls, mais ça arrive souvent, quoi. Donc, c'est pas très intéressant de ce côté-là. Sinon, pédagogie du sport, c'est un cours qui est censé nous introduire la pédagogie de l'enseignement, donnée par un enseignant de l'Uni, mais il faut savoir qu'on n'a aucun intervenant de la HEP, donc la Haute École Pédagogique. Donc ça rend à mon sens le cours moins intéressant. Et puis il y a beaucoup de théories justement qui portent sur la HEP, mais on arrive à nous dire on va pas aller plus loin dans ce cours parce que de toute façon vous le verrez à la HEP. Donc certains cours d'après moi n'ont pas forcément leur place dans le cursus. Sinon au niveau des pratiques, donc comme j'ai dit en première année on a des pratiques imposées, donc qui sont agrès, sport de balle, donc on peut choisir entre handball ou basket. Moi j'ai choisi en l'occurrence handball. Il y a éducation du mouvement. Il y a le camp multiglisse, donc qui est un camp de neige où on doit faire ski et surf pendant une semaine. Et puis on est noté pendant la semaine et on obtient une note à la fin de la semaine. Il y a natation, sport plein air. Sinon, au niveau des sports d'hiver, il y a le patinage artistique, hockey sur glace. Et puis, on a encore deux autres camps en fait, de sport de neige après qui sont sport de neige 1 et sport de neige 2. Et j'ai pris un camp optionnel que j'ai fait la semaine passée qui est ski de fond à la vallée. Qui est entre parenthèses était super parce que c'est vraiment un bel endroit et les profs étaient super intéressants, vraiment un camp top. Et puis sinon au niveau des camps d'été, on a également des camps polysport et puis une semaine polysport aussi que j'ai fait à mon Jura français. Donc les camps c'est sympa dans le sens où c'est une ambiance beaucoup plus détendue. Les profs, souvent on apprend à connaître les profs, donc souvent les mêmes profs qu'on a dans les autres pratiques. Et puis c'est super intéressant, déjà un parce que les profs sont pas les mêmes, ils apprennent à se lâcher. Le lien, quoi, la relation entre étudiants-enseignants est plus sympa, je dirais, qu'à l'uni, bien qu'à l'uni en sport, ça arrive fréquemment qu'on ait le droit de tutoyer les profs. Donc justement, souvent à la fin des camps ou des cours, ils nous disent qu'on peut les tutoyer parce que c'est plus sympa dans la salle de gym. Donc souvent dans les camps, on tutoie les profs. Et puis, par exemple, si je prends le camp qu'on a fait à on avait des classes. Donc c'était un camp qui était offert à des classes de des jeunes. Et puis, ils profitaient qu'on doit faire le camp pour encadrer les jeunes, en fait. Donc c'est nous qui proposerons des activités. Donc par exemple, ils avaient chaque fois un après-midi où c'était les étudiants en sport qui leur organisaient une activité, bon, qui nous était nous-mêmes imposée. Donc, par exemple, il y avait un soir jeu de nuit. Donc, c'est un groupe qui a dû organiser un jeu de nuit dans la forêt, qui faisait assez peur d'ailleurs, mais qu'on dû. Hein? Qu'on dû organiser. Alors, ils ont dû organiser donc, des jeux de nuit. Donc, là, le thème était imposé, mais l'activité était totalement libre. Donc le groupe en question a décidé, ce soir-là il pleuvait, et ils ont commencé l'activité vers 20h30, 21h, donc il faisait nuit. Et puis en fait ils ont pris le thème du Seigneur des Anneaux, et chaque étudiant jouait un rôle. Donc en fait tous les autres étudiants de l'Union Sport, on devait aller observer l'activité, la noter, la juger, comment on appréciait l'activité. Et puis tous les jeunes élèves des classes devaient participer à l'activité. Donc ils avaient le départ depuis la base où on était, où on logeait, puis ils ont dû suivre des torches qui étaient allumées tout au long du chemin. Puis plus on avançait, plus on s'enfonçait dans la forêt. Puis par exemple, il y avait certains étudiants avec un drap noir et puis une torche qui apparaissait au milieu de la forêt. Il y avait une conteuse au milieu de la forêt, donc dans un cercle de torches qui racontait des histoires aux enfants, qui les réceptionnait une fois qu'ils avaient tous trouvé le chemin. Puis après, ils avaient chaque fois en fait des points à récolter, donc il y avait des postes étalés dans la forêt. Bon, c'était en forme d'étoile pour éviter qu'ils se perdent. Et puis à chaque poste, il devait combattre quelque chose. Ou puis sans arrêt sur le chemin, il y avait des apparitions de gollum ou autres qui apparaissaient dans les herbes. C'était assez effrayant. Alors, ça c'était un exemple de camp. Sinon, dans les autres camps, en règle générale, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'élèves. Donc là, c'est un des camps le plus original et le plus intéressant, justement du fait qu'on ait des élèves. Sinon, au niveau du temps que les études prennent dans la vie, l'uni en sport prend pas mal de temps parce que justement pour les pratiques, il faut pour certaines personnes pas mal de temps, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de s'entraîner à côté des pratiques. Donc moi j'ai la chance, c'est vrai, de pas avoir trop besoin de m'entraîner, j'ai assez de facilité. Mais il faut savoir que pour beaucoup d'étudiants ont besoin d'aller à côté. Donc si je prends patinage artistique, qui est un cours assez difficile, donc il faut savoir que pas tout le monde tient très bien sur les patins. Et puis ils nous demandent donc les quatre sauts, donc l'axel, le touloup, le bouc piqué, enfin voilà, Riedberger, c'est tous les sauts qu'on doit maîtriser. La pirouette également, donc c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Donc là, il y en a beaucoup, par exemple, qui prennent. Il y a des cours universitaires qui sont organisés en dehors des cours pratiques. Et puis beaucoup d'étudiants vont une à deux fois par semaine en plus du cours dans l'idée de réussir l'examen. Et puis beaucoup d'étudiants et moi aussi on se révolte un peu la contre parce que on nous a descendu la valeur des cours pratiques, donc ça vaut plus qu'un crédit et demi. Donc en fait on passe plus de temps que pour un cours théorique. Mais ils valent plus qu'un crédit et demi. Donc en plus de ça, ça nous prend bien souvent plus de temps qu'un crédit et demi. Donc ça, c'est un des points qui révèle beaucoup d'étudiants en sport, justement, parce qu'on dévalorise les pratiques. Et puis justement, au niveau du patinage, les exigences sont pas mal élevées. Donc on doit être présent à plus de 80% des cours pour que le cours nous soit validé. Ça, c'est une des premières exigences pour tous les pratiques. Ensuite, pour patinage, on a deux examens intermédiaires. Donc, une fois au bout du sixième cours, on a des suites de pas à avoir appris. Et puis, on est jugé déjà là une première fois sur les suites de pas. On a également la pirouette à présenter, par exemple. Pirouette deux tours, minimum deux tours. Et puis sur l'examen final, alors on a également une deuxième suite de pas à connaître. On doit faire une pirouette au minimum 3 tours. Et puis on a une chorégraphie à monter de 1 minute 30 qu'on doit exécuter à la fin devant tous les enseignants et tous les étudiants au milieu de la patinoire sur une petite musique. Donc c'est vrai que ça fait bien rire en général, c'est filmé chaque année parce qu'il y a chaque fois des trucs pas mal drôles. Donc voilà. Sinon, il y a également éducation du mouvement, donc ça c'est aussi un cours qui prend pas mal de temps. Éducation du mouvement 2 prend plus de temps que éducation du mouvement 1. Donc moi pour l'instant j'ai fait que éducation du mouvement 1. Donc là également on a des différents profs, donc on voit différentes danses, par exemple on a appris la valse, le tango, les pas de base. Sinon avec un autre enseignant on voit tous les rythmes. Donc, comment travailler en rythme sur la musique. Et puis avec un autre, on voit les engins à main, comment utiliser une musique avec des élèves, qu'est-ce qu'on peut faire à des élèves sur une musique, enfin voilà. Et puis l'examen final, est justement, en première année, j'ai dû faire l'examen, c'était on devait tirer un billet au sort, et puis on avait une danse qui était notée dessus. Sur le papier, et puis on avait disons 10 secondes pour se préparer, et puis après on nous mettait la musique, puis on devait présenter la danse. Donc c'était le tango, la valse, on devait présenter les pas. Donc là on était jugé une première fois là-dessus. La deuxième partie de l'examen, c'était on tirait au sort également un petit billet sur lequel étaient notées des suites de pas, donc pas croisés, pas chassés, pas sautillés, enfin voilà. Donc quel sens on devait les faire dans la salle, et puis. Là, on avait un peu plus de temps, on avait un quart d'heure, 20 minutes, ouais, un quart d'heure pour préparer ses pas. Donc, on avait le droit au baladeur. On avait en plus une musique qu'on ne connaissait pas qui nous était attribuée. Et puis, on avait un quart d'heure pour travailler la suite de pas qu'on allait présenter ensuite aux enseignants. Donc là, on le faisait dans un coin de la salle pendant que l'autre étudiant est en train de faire son examen. Et puis qu'il y a la musique à tue-tête. Alors, donc après, là, on présente cette suite de pas au prof. Il y a toujours bien évidemment tous les étudiants qui nous regardent dessus depuis la salle de musculation. Et puis la troisième partie de l'examen est une chorégraphie qu'on a dû monter en groupe, en général par groupe de quatre. Donc là, on avait quatre musiques au choix. Et puis on avait le droit de former les groupes qu'on voulait. Donc moi, sauf erreur, j'étais un groupe de quatre filles. Et puis on avait des exigences, donc on devait utiliser des engins à main. Donc corde à sauter ou ballon. Puis on devait faire également des parties sans engin à main. Donc ça, c'est une première partie, l'examen d'éducation du mouvement 1. Puis par contre, pour éducation du mouvement 2, le cours est un peu différent. Donc il y a une Africaine qui vient de donner des cours de danse africaine. Il y a une autre partie aussi, c'est la suite en fait d'éducation du mouvement 1. Et puis l'examen, c'est toujours la même forme, donc on forme des groupes, c'est nous qui choisissons notre musique. Et puis il faut présenter une première fois aux enseignants la chorégraphie avec la musique, et en introduisant des pas de danse africaine, je ne sais plus quelle autre danse aussi il faut introduire. Puis en fait après il faut la refaire qu'avec des percussions. Donc il faut choisir une musique assez rythmée, puis qui nous permettent justement qu'on arrive à la reproduire. Donc par exemple, un étudiant a des maracas dans une main, ou il se met des grelots aux pieds, puis il doit arriver à reproduire tout le tempo. Les enseignants doivent retrouver le rythme de la musique tout en faisant la même danse sans devoir rien changer à la danse qu'on a fait auparavant. Donc c'est vrai que ce deuxième cours prend plus de temps que le premier. Alors voilà, et puis sinon, je pense normalement, si tout se passe bien, que je finis mon bachelor cet été. Donc j'ai hésité longuement avant de m'inscrire au master, parce que je savais pas si je voulais le faire ou pas, parce que je pense que les études à l'heure actuelle sont bien assez longues. De plus que si je veux enseigner plus tard, je dois encore également faire 2 ans de HEP après, donc... Là, je me suis dit que j'étais jeune, j'avais pas trop tardé dans mes études, donc j'ai décidé de m'inscrire au master. J'ai d'ailleurs envoyé la feuille aujourd'hui par la poste. Donc, je vais choisir un master en enseignement. Donc, il se compose de 90 crédits, dont 30 crédits sont le mémoire. Et puis, là-dessus, il y a 10 crédits de pratique, sinon c'est que des théoriques. Donc, comme je l'ai un peu dit avant, c'est que les pratiques occupent une place très petite dans les études en sport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup plus de théorie que de pratique. Donc, ça embête aussi beaucoup de personnes. Mais là, justement, j'aurai comme pratique tous les deux en général, donc les cours 2, c'est-à-dire natation 2, éducation du mouvement 2, athlétisme 2. Handball 2, plus encore un camp sport de neige 2, et puis plus après j'ai encore des cours optionnels dont j'ai le droit de choisir. Donc athlétisme 2 est un cours qui demande pas mal de préparation. J'ai Quentin, mon copain, qui l'a fait l'année passée. Donc il faut savoir que tous les cours 2 sont plus basés performance. Donc par exemple pour athlétisme, il y a le 100 mètres qui est chronométré, où tous les barèmes pour les pratiques sont basés sur les meilleurs étudiants des universités en sport. Donc toutes les meilleures performances de chaque canton ou université de Suisse forment la moyenne. Donc ils basent les barèmes d'après ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, c'est des barèmes assez élevés. En général, plus pour les garçons que pour les filles, parce que c'est vrai qu'il y a moins de filles à l'université en sport, donc c'est vrai que les barèmes souvent sont moins difficiles. Mais pour le 100 mètres, pour les filles, pour avoir 4, on doit faire 13 secondes 5, 4. Et puis à plus de 15 secondes, donc certaines filles, il faut savoir qu'elles n'arrivent pas à courir, même sportives n'arrivent pas à courir à 100 mètres 15 secondes, elles ne sont même pas dans les barèmes, donc ça leur fait 1. Donc ça fait une partie de la note. Après, il y a le lancer du javelot où c'est pas évident. Il y a le saut en longueur aussi, le saut en hauteur, où les garçons, par exemple, doivent franchir 1,60 m pour avoir 4. Donc c'est des barèmes assez horribles. Pour les filles, c'est plus facile, mais c'est vrai que les garçons, il y en a beaucoup qui partent du principe d'avoir de le valider à 3. Parce qu'il faut savoir justement qu'on a le droit à valider un cours pratique en dessous. Donc sur les 9 pratiques que là je vais faire, j'ai le droit d'en valider un en dessous. Mais c'est comptabilisé dans tous les cours, j'ai le droit de valider à la fin. Donc sur les cours théoriques, j'ai le droit de valider 12 crédits en dessous, mais pas plus de 3 cours. Donc si je valide déjà un pratique en dessous, j'ai le droit à valider plus que 2 cours théoriques en dessous. Donc voilà. Puis sinon, bon, au niveau du master, pour les cours théoriques aussi, la plupart sont dans la continuité du bachelor. Donc j'ai également théorie de l'entraînement 2, politique institution 2, tous les cours 2. Donc voilà.